Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Laideur effrayante et saleté repoussante. Didier regarde tout ça avec curiosité. Bien lui dit, ne fais pas attention au décor, c'est une bonne planque. Personne n'ose s'aventurer ici. Et quand ils vont tout démolir ici, il va y avoir du grabuge. Les gens ici aiment leur tranquillité. Ils ne veulent pas qu'on s'occupe de leurs petites affaires. Viens, on arrive. Le fait passer par une minuscule ruelle très étroite. Il y a encore des pavés à terre, des maisons lépreuses. C'est tout juste si elles tiennent, si les pierres peuvent être tenues debout. Des tas d'inondices à terre. Des gosses qui jouent à moitié nus dans le ruisseau. Des étendages aux fenêtres. Yann lui dit, c'est là. Et il s'engouffre dans le passage noir d'un immeuble de 4 étages. Ça sent la pisse et les ordures. C'est très humide. Il y a des ouvertures dans le passage qui donnent dans des allées d'immeubles lépreuses. Au bout du passage se trouve une cour minuscule avec un petit couloir. La cour est privée. Elle a plein d'inondices sur le sol. Au fond de la cour se trouve une autre maison de 3 étages, encore plus lépreuse que l'autre. Viens, Didier le suit. Et ils vont rentrer dans l'allée. Ils entrent dans l'allée. L'allée est petite, étroite, avec des escaliers de bois. On monte jusqu'en haut. Didier le suit. Ça sent la poussière. L'immeuble à trois étages semble abandonné. Arrivé au troisième étage, c'est le dernier palier. Il y a une échelle pour accéder et une trappe pour aller sur le toit. Yann prend l'échelle. La plaque contre le mur. Monte sur l'échelle. Et ouvre la trappe. Il a rabattu de l'extérieur. Enjambe l'ouverture et se trouve à l'extérieur. Il dit à Didier, viens, viens me rejoindre. Tu as le vertige? Didier lui dit, non, je ne pense pas. Et Didier monte à l'échelle en hésitant un peu. L'échelle bouge sous ses pieds. Yann, d'en haut, le maintient des deux mains, l'attrape des deux mains, et il se trouve à côté de Yann, qu'il prend, le soulève, et se trouve sur le toit. L'échelle a bougé, mais elle est restée en place. Didier regarde où il est et voit qu'il est sur le toit, plein de cheminées. Il voit tous les toits environnants. Yann lui demande, ça va? Oui? Ton ami habite où? Yann lui dit, pas bien loin. Il aime la tranquillité. C'est pour ça qu'il habite un peu loin et dans un endroit peu facile. Allez, viens. Didier suit Yann en faisant attention de ne pas tomber. Il longe les toits. Il va vers un autre toit qui est à peu près à la même taille et la même hauteur. Saute du toit à l'autre. Puis, arrivé sur le toit de l'autre maison, Yann va vers une ouverture. Il l'ouvre parce qu'elle n'était pas fermée. Viens. Didier arrive. Fais rentrer Didier à l'intérieur de la maison. C'est le couloir d'un grenier. Il longe le couloir. Ouvre une porte. Donne à des escaliers qui descendent. Un étage plus bas, les escaliers sont en pierre. Arrivé au rez-de-chaussée, il se trouve dans une petite allée avec des boîtes aux lettres. C'est assez propre, pauvre mais propre. Et elle lui dit, viens. Il le met au fond de l'allée. Il se trouve une porte. Il ouvre la porte et il sort. Ça donne à une cour qui fait jardin. À droite de la cour, dans le mur, se trouve une petite porte de bois. Yann le mène à la porte de bois. Il l'ouvre et sort. En pleine verdure, un passage de verdure, un passage au fond d'un trou de verdure, et sur le sol, au milieu se trouvent des rails, de vieilles rails rouillées de train. Yann lui dit, c'était là que passait le train de la petite ceinture. Maintenant c'est abandonné, il y a quelquefois des clodos, des gitans. Mais c'est rare, plus personne ne vient ici, on est pépère. Personne ne nous voit en pleine nature, tout est à nous, c'est ici que mon ami habite. Lui aussi il aime le calme à cause de ses affaires. Didier lui demande, qu'est-ce qu'il fait comme affaire? Yann lui dit, des affaires, il vend des choses, viens. La ligne de chemin de fer. Pas de bruit, rien. On se croirait à la campagne. On entend juste les oiseaux. Et comme c'est dans un trou, le bruit de la ville ne vient pas jusque-là. Et on ne la voit pas. Après des heures passées dans des rues ignobles, sales, puantes, il est heureux de se retrouver dans un endroit de campagne. Oui, de campagne. Il m'a dit que ce soit plutôt un décor de campagne. Il marche pendant un moment. Didier se dit qu'ils doivent quitter Paris et aller à la campagne pour qu'au bout que ce ne soit pas des paysans comme il a connu. Enfin, ils voient dans un renfoncement qui élargit le fossé, petite maison de deux étages, genre vieille maison familiale du 19e en pierre beige. Il y a un portail qui donne sur le devant de la maison et une petite cour. La nuit dit, c'est ici. Il tire le coulisseau lyonnais pour faire marcher la sonnette. La porte de la maison s'ouvre. Un homme, grand, mince, cheveux gris épais, lunettes métal, habillé d'un vieux pantalon gris et une veste en laine verte, va vers eux. Yann lui dit, salut, je t'amène un nouveau. Yann regarde bien Didier lui. Et il dit, d'où il vient? Yann lui dit, j'ai trouvé, sur le pas de Notre-Dame, venait de débarquer à Paris. Il n'a rien. Il a quitté ses vieux il y a une semaine, des paysans. Tu peux y aller, il n'y a rien à craindre. Yann lui dit, je te fais confiance. Il regarde bien Didier et lui dit, je m'appelle Cholet, viens, entre. Il ouvre le portail, et deux enfants entrent, et suivent Cholet, qui les mène à la maison. Là, il les fait rentrer. En entrée, vaste, avec escalier de pierre, Cholet dit à Didier, tu seras bien ici. Nous allons bien nous amuser. Viens, je vais te montrer ta chambre. Yann lui dit, il a plutôt faim. Bien. Et tu me donnes la commission? Oui. Oui, je l'ai fouille dans sa poche de son pantalon. Il en sort une carte. Yann lui donne son écran. Je l'ai, met la carte sur l'écran et marque un chiffre. Puis, il tend l'écran à Yann. Yann regarde bien et dit, que ça? Oui, il n'est pas trop gros. Oui, mais c'est la bonne qualité. Je n'en aurai pas pour beaucoup. Yann lui dit, ça ne suffit pas. Tu n'auras rien de plus. Yann lui dit, bon, mais la prochaine fois, c'est moi qui mène qui le livrerai. Tu ne peux pas. On ne te laissera pas faire. Tu n'es pas tenté pour ça. Yann soupire et sort. Cholet se penche vers Didier et lui demande, t'as faim? Oui, monsieur. Bien. Viens. Il prend l'enfant par le bras et le mène au réfectoire qui se trouve au rez-de-chaussée à droite. Entre. C'est une grande pièce où se trouvent de longues tables avec des bancs. Assieds-toi. Je vais asseoir au bout d'un banc. Je vais te chercher à manger. Et il sort pour aller lui chercher à manger. Il revient. Avec une assiette. De cassoulet. Du pain. Et une pomme. Tiens, mange. L'enfant se met à manger. Il mange goulûment. Il n'a pas vraiment mangé depuis une semaine. L'assiette est finie. On n'a rien de temps. Il dit à Cholet, « J'en voudrais bien encore, monsieur. » Cholet lui dit, « Ne demande pas une deuxième fois ce que l'on vous offre. Tu as assez mangé. Nous verrons plus tard. Viens. Tu vas dans ta chambre. » Donne du travail. Allez, sortons du réfectoire. Et le mène au deuxième étage. Deuxième étage. Entre. C'est un dortoir avec 12 lits. Il lui montre un lit. Tiens, couche-toi ici. Déshabille-toi et dors. L'enfant lui dit, j'ai pas de pyjama, monsieur. Je lui dis, ça ne fait rien. Tu n'en auras pas besoin. Lorsque tu... On va te mener là-bas. C'est où, monsieur? Tu verras. C'est une belle maison. Allez, déshabille-toi. L'enfant commence à s'habiller. L'homme lui fait les poches. Il voit qu'il n'y a rien. Il lui dit, tu n'as pas de carte. Didier lui dit, « Si, monsieur, le maître me l'a prise. »« Bon, ça va. Allez, couche-toi. » Didier s'allonge. Il est en slip. Il se met sous les draps. L'homme lui dit, « Bonne nuit. » Et l'homme se retire. L'enfant se retrouve seul.
Petit à petit, le calme, la fatigue, l'endort. Fait des rêves où il marche, court dans des rues tristes et sombres. Noir.
Je vous arrête. Faut qu'on finisse.
Non, arrêtez.
Tout d'un coup, il entend des bruits. Comme une foule. Qui parle.
T'as jamais mieux. Vraiment même mieux aimé. Mais je te remercie. Ah.
Il se réveille. Les voix allaient venir parler, rire. Des enfants.
Ah, marchez noir, monsieur.
Il se souvient où il est.
Faut qu'on fait tirer chez les confis.
Il est réveillé complètement.
C'est mauvais milieu sous les mers.
Futur chez les confis.
Un jeune blondinet tend le doigt vers lui et dit : Vous nous vous réveillez. Tous se tournent vers lui. Il se penche. Celui qui a tendu le doigt demande : Tu t'appelles comment ? Didier. Moi c'est Yves. Tu es nouveau ? De passage ? Ou pour toujours ? Didier lui dit : Je ne sais pas. Pourquoi ? Il y en a qui s'en vont ? Un lui dit : Oui, toutes les semaines, on vient nous chercher. Certains viennent nous chercher. Pourquoi faire ? Pour nous mener dans d'autres maisons. Les plus intelligents sont menés dans une grande maison pour étudier. Les malades à l'hôpital, certains dans des maisons pour enfants où ils peuvent bien s'amuser. Mais on ne sait pas où on va aller. Didier lui demande. On ne reste jamais ici. Le petit blond lui dit. Je ne crois pas. Il n'y a pas d'anciens ici. C'est pour la sélection, comme ils disent. Didier lui dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois rester ici.
Marché noir, monsieur Poupin.
Il lui dit. On ne peut pas parler. C'est interdit. Et puis, on mange bien ici. Didier demande. Qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Visite médicale, devoirs et sport. Certains ont de la chance. On les gave. Il paraît qu'il faut qu'ils grossissent beaucoup. Et une fois qu'ils sont gros, on les prend. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ça, je ne sais pas. Ceux qui partent, on ne sait jamais ce qu'ils deviennent. C'est comme ça. Le requin lui demande. Qui t'a amené ici ? Yann, ça c'est bien. Ne prends que des bons. Tu dois être un bon, toi. Pourquoi ? Parce que Yann ne prend que des bons. Des bons quoi ? Des bons enfants ? Tiens. Faut bien, quoi ? Pourquoi faire ? Pour en faire des gens bien. Si on est bien de partout, on va dans une superbe maison, un château, et là, c'est le paradis. On a tapé des mains, et une voix dit « Extinction des lampes dans 5 minutes, au lit tout le monde !» Se dépêche de se déshabiller pour aller se coucher. Thank you. Demain matin, Didier se réveille. Le dortoir est déjà vide. Il se lève, s'habille. Et descend les escaliers du premier. Au premier, il s'assoit sur les marches. Il entend d'une pièce qu'on joue du piano. Il ouvre la porte et se trouve dans un salon 1900 avec au piano Cholet. Il va vers lui. Cholet le voit, s'arrête de jouer. Il lui dit, « Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi ?» Le jeune lui dit, « J'ai réveillé tout seul. » Cholet lui dit, « Les autres sont partis faire du sport, mais c'est pas bien grave. Tu vois, je jouais. J'aurais bien aimé être un grand interprète, mais j'ai jamais pu. C'est bien dommage, parce que j'avais beaucoup de talent. J'ai écrit quelques chansons, tu sais. Et toi? Tu veux quelque chose? Non, monsieur. » Cholet le regarde et lui dit, « T'es bien joli garçon. » Didier lui dit, « Alors, j'irai dans la bonne maison ?» Qui t'a dit ça? Les autres, je ne sais pas. Ah, ça, tu iras peut-être dans la bonne maison. En attendant, va déjeuner. Viens. Et ils sortent du salon. Il va le mener au réfectoire. Après lui avoir donné son petit déjeuner, Cholet lui dit, « Viens, on va te faire passer à visite médicale. Mais je ne suis pas malade. Bien sûr que tu n'es pas malade. Mais on veut voir si tout va bien, mon petit. Allez, viens, n'aie pas peur. N'aie pas peur. » Et Cholet le mène chez le médecin de la maison, un docteur à demeure. Le médecin, Marielle Auguste, est un homme grand, fort, cheveux gris, lunettes métal, visage un peu dur. Son cabinet se trouve au premier étage. Entrez. Il entre. Marielle est à son bureau, blouse blanche, mobilier métal. Les voit arriver et dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Cholet lui dit, « C'est nouveau. »«
Oui, je le vois bien. Et alors ?»« Je croyais qu'on ne prenait que de la première qualité. Les autres maisons fournissent de la meilleure qualité que la nôtre. C'est un comble. À Lyon, ils ont devancé pour la qualité. Julien lui dit, c'est à cause des écoles libres. Mais cette fois, c'est Yann qui l'a amené. Il ne se trompe jamais, lui. À première vue, il n'a pas l'air d'être bien costaud. Julien lui dit, oui, mais il a de très beaux yeux et une très belle peau. Très belle peau. Et puis, il est très jeune. Quel âge ? 10 ans. Muriel soupire et dit, bien, je vais l'examiner. Mais je crains que ce soit que pour la clinique. Il devienne de plus en plus difficile pour le reste. Viens ici, mon petit. Tu vas te déshabiller et je vais t'examiner. N'aie pas peur. Je laisse le retire. Bon, ben je vous laisse, hein. Et la visite commence. L'enfant est examiné sur toutes les coutures, pesée, urine, radio, dents, yeux, oreilles, réflexes, muscles, mesuré, pesé, pointé, souffle, tension, etc., etc. Une fois que tout est fini, le médecin lui dit, tu peux te rhabiller. Se rhabille. Le médecin fait un numéro. Allô, pouvez-vous venir chercher? J'ai fini. Une fois que l'enfant est fini de s'habiller, frappe à la porte. Entrez. Entre Cholet. Le médecin lui dit, voilà, j'ai fini la visite. Les papiers sont là. Dans l'ensemble, il est très bien. Un peu faible, mais ça pourrait aller. Cholet lui dit, vous l'avez bien dit. Muriel lui dit, il y a encore les tests. Cholet lui dit, oui. Et dit au jeune, viens. C'est fini. Et ils sortent tous deux. Cholet le mène faire des tests pour connaître son intelligence et son savoir. C'est le professeur Lionel Martin, un jeune homme de 28 ans, grand, mince, blond, très joli garçon, qui lui fait les tests. Les tests sont très bons parce que l'enfant n'a pas été à l'école et il s'est servi de son intelligence pour connaître les choses, et son intelligence est très bonne.
Lionel dit. Heureusement, ils seront obligés, c'est de dépenser beaucoup pour remettre au niveau. Et comme je les connais, ils ne voudront jamais. Dommage. Il est très gentil. C'est bien dommage. Ils vont le donner à la clinique. Puis Didier à la vie des autres enfants de la maison. Le sport le matin, l'après-midi études. Pour le sport, il se débrouille assez bien. Mais pour les études, il n'arrive pas à suivre. D'ailleurs, il n'est pas le seul dans ce cas. Sur 20 enfants, il y en a la moitié qui sont mauvais, un quart passable et les autres très bien. Didier reste toute une semaine comme ça. Cette vie lui plaît bien. Il est entouré d'enfants et mange à sa faim. Il est souvent avec Yann, qu'il a pris en affection. Vendredi matin, au lieu d'aller au sport après le petit déjeuner, avant qu'il ne sorte du réfectoire, le directeur lui dit « Mon enfant, comme tous les vendredis, M. Dutour vient faire la sélection. » Vous savez qu'ici, ce n'est qu'un transit. Et que vous allez être mené dans un lieu correspondant à vos capacités pour que vous puissiez devenir utile plus tard pour la société. Que vous puissiez vivre de vos capacités. Alors vous allez rester bien sagement assis et l'on viendra vous chercher pour vous mener à M. Dutour, le recruteur. Les enfants restent à leur place, un peu inquiets. On les appelle un à un. On ne les revoit plus. C'est assez long. Puis, c'est au tour de Didier. Dit son nom, Didier. Il se lève et va vers lui. Viens avec moi. Et ils sortent du réfectoire. l'a fait entrer dans une grande pièce où il y a une table, une très grande table, qui leur fait face. Il y a le médecin, le professeur de gym, et un autre monsieur, qui est monsieur Dutour, un homme grand, sec, cheveux châtains, nez très pincé. Il est habillé d'un costume noir. Sur la table, à côté de lui, se trouvent des piles de dossiers. Monsieur Dutour dit « Assieds-toi !» Le directeur met l'enfant à un tabouret pour qu'il s'assoive en face de la table. Dutour demande « Ton nom, c'est comment ?»«
Didier, monsieur.
Didier, comment ?»«
Je ne sais pas, monsieur. »
Monsieur Dutour soupire et dit « Ça promet. » Il ne sait même pas son nom de famille. Il ouvre la pochette qui est devant lui et marqué le nom de l'enfant. Lit. Les notes ne sont pas très bonnes, pas bonnes du tout même. Regarde les professeurs et leur dit « On ne peut rien en faire, même pas un professeur de gymnastique, c'est désolant. Pourquoi me présenter vous ça ?» Le directeur lui dit « Parce que physiquement, il est très bien. » L'homme regarde les feuilles du dossier.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.